Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est Henriette Walter, en vérité, que vous retrouvez dans cette émission, elle qui anime, avec toute sa compétence de linguiste, cette série. Elle est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne et avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, nous avons établi cette série d'une vingtaine d'émissions. Dans cette émission, numéro 12, c'est la 12e de la série, Henriette Walter poursuit son étude de 3 ou 4 langues doc, et nous allons, je crois, Henriette, bonjour, aborder provençal, languedocien, gascon et même béarnais.
Alors, la dernière fois, nous avons parlé du provençal alpin. Et quand on dit provençal aujourd'hui, on ne parle pas du provençal alpin, qui est un petit peu différent. On parle du provençal maritime, à vrai dire, plus au sud.
Celle de Pagnol, la langue de Pagnol.
De Mistral, etc., qui a eu une telle influence sur les autres. Tout de suite, un mot sur le Nisard, qui est à l'est du provençal, qui est une variété de provençal, on pourra dire. Mais en fait, les gens de Nice préfèrent dire que leur langue est différente, bien sûr, parce qu'elle-même, elle a des traits qui ressemblent un petit peu au dialecte de l'Italie, bien sûr.
Mais Nisard, Nisard, je précise, ça s'écrit N-I-2-S-A-R-T, alors que niçois, évidemment, s'écrit avec un C-C-D. Voilà, encore une des bizarreries de la langue et des langues.
Exactement. Voilà, donc la région septentrionale du Nisard ressemble un petit peu au provençal alpin, c'est-à-dire avec quelques archaïsmes. Alors maintenant, on va dire quelques mots de ce provençal si important.
Maritime, celui qu'on considère aujourd'hui.
C'est ça. Donc, quand on dit provençal tout court, maintenant, on parle de celui-là.
D'ailleurs, on ne sait pas qu'il y en a un autre, donc ça
prouve. On ne sait pas, voilà. Alors, c'est donc des variétés de la langue d'oc centrale qui a connu son heure de célébrité mondiale grâce à Frédéric Mistral, grâce à son long poème « Mireio », qui a reçu en 1904 le prix Nobel de littérature. C'est assez incroyable. Une œuvre en langue d'oc, pas en langue française. C'est vraiment tout à fait
intéressant. Les prix Nobel suédois se sont donc sentis concernés par cette langue d'oc.
Voilà, exactement. Par exemple, Lamartine avait écrit « Un grand poète épique est né, un poète qui, d'un patois vulgaire, fait un langage classique d'image et d'harmonie, ravissant l'imagination et l'oreille, un poète qui joue sur la guimbarde de son village des symphonies de Mozart et de Beethoven. » C'est incroyable, hein, c'est beau. C'est très important de parler de Mistral. Alors, peut-être un mot historique. Au milieu du XIXe siècle, 6 jeunes poètes provençaux, parmi lesquels justement Frédéric Mistral, se réunissent pour créer le Félibrige, qui est une sorte de pléiade provençale, dans le but de faire renaître une véritable langue commune. Parce que cette langue s'était déjà beaucoup différenciée au XIXe siècle. Ça n'était plus la langue du Moyen-Âge qui était assez unifiée.
Donc, une sorte d'académie provençale, au fond, qui fixe les usages de la langue.
Exactement. Et donc, avec l'importance qu'a eu Mistral et la langue de sa région. Car ils ont eu l'idée également d'écrire cette langue. Et pour l'écrire, ils se sont dit, bon, on va essayer de prendre un dialecte de référence. Et tout naturellement, étant donné que Mistral était né à Mayenne, tout près d'Avignon, eh bien, c'est tout naturellement cette langue qu'on a choisie comme modèle de référence. Mais, malgré les hommages rendus à son plus illustre représentant, cet orthographe n'avait pas réussi à convaincre l'ensemble des gens du domaine d'oc. Et c'est ainsi que, un petit peu plus tard, va naître, vers la fin du XIXe siècle, une autre graphie qui était fondée, cette fois, autant que possible, sur l'ancienne graphie des troubadours, et non pas sur la langue de Mayenne. Donc, j'ai dit qu'elle avait été créée par l'Institut d'études occitanes, que l'on appelle souvent par l'IEO. Donc, on a fait, à
ça,
ce moment-là,
ils
ont
récent,
fait...
Hein, c'est très récent.
Enfin, ça a commencé à la fin du 19e siècle quand même, mais au 20e, évidemment, c'est extrêmement important. Les efforts datent de la fin du 19e, mais en fait, c'est autour des années 1970 que l'Institut d'études occitanes prend son importance. Et à partir de ces années-là, tous les efforts sont faits pour créer une graphie à partir, cette fois, du languedocien, et non plus du provençal maritime. D'où la petite bagarre entre
s'y
les
retrouve,
uns
c'est bien. Et mais alors là, je trouve autres. Ça introduit plutôt de la confusion.
Pour nous, c'est clair. C'est clair. Autrement dit, c'est une espèce de langue de référence
recomposée
en essayant de retrouver la base de la langue ancienne, disons.
De l'occitan, de la langue d'oc ancienne. Voilà.
Et en effet, le languedocien est plus proche de la langue ancienne que ne l'est le provençal. Voilà pourquoi il y a cette petite bagarre interne. Il semble d'ailleurs que maintenant, les points de vue se soient un petit peu rapprochés. Moi-même, j'ai été invitée par le Philippe Rige et l'IEO en même temps. Donc, ils ne se bagarrent pas tellement, puisqu'ils m'ont invité tous les deux. Évidemment, je suis l'étrangère. Oui. Hein. Évidemment, parce que je ne prends pas parti, hein, bien sûr.
Retrouvons maintenant Clément Moutier en compagnie de Philippe Blanchet, qui va nous réciter un texte en provençal.
Philippe Blanchet, originaire de Marseille, va nous réciter deux petits poèmes de sa propre composition.
Le premier poème s'intitule « Pastilouliam » et qui veut dire « Je pétris le lien ». C'est un texte qui parle du travail qu'on peut faire chacun au quotidien sur le lien qu'on bâtit avec les gens qui nous entourent et entre le passé dont nous venons, le présent que nous vivons et le futur que nous pouvons construire. « Pastilouliam, contre un passa senso des mains, et l'avenir senso racine, yeu pasti un veille que fageliame. Contre une aier qui si desfa, et une demain qui si refa, yeu pasti un présent qui si fa. Pereisista, yeu prenilengo. Oblidi un pou, mai miramenti, regardi fis en sus, lupan canamangia. » Le deuxième est un poème qui s'appelle Umbro et Lume, Ombre et Lumière. C'est un poème qui interpelle l'étranger à la Provence, et qui lui explique qu'en Provence, la lumière est tellement vive que l'ombre est épaisse et que dans ce pays, beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on croit, sont des choses qui sont cachées et non pas des choses que l'on voit. C'est un pays de secrets. Umbro et Lume. Estrangier, à qui le lume est tan clair que l'ombre est espesso. Saches que ce qui vies es l'esquino d'une face scondudo, et que même les peiro, même les fuon, même le vin, t'espiche un tranquille, et si parle un secret sous l'engagi, anelli.
Merci à Philippe Blanchet pour cette récitation. Je vous invite à retrouver Clément Moutier en fin d'émission pour écouter un extrait de chanson en provençal. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette langue provençale maritime?
Donc, on a dit que c'est plus proche du latin. Hein, la voyelle A accentuée du latin est restée A, tandis qu'elle a pris un autre timbre dans la zone d'Oïl. Par exemple, en provençal, pour dire le sel, on dit sao. En languedocien, on dit sal. Et celle en français avec un « e ». Donc, vous voyez, c'est vraiment déjà une autre différence. On a déjà parlé de la différence du « que » et du « che ».
Oui.
Et puis, on a la vocalisation de la consonne « l ». Vous voyez, très souvent, on a parlé du « l » déjà pour la palatalisation du « l » lieu en catalan. Là, on a la vocalisation du « l ». Et ça n'est pas la vocalisation en « a » ou en « e ». On a la vocalisation en « ou ». C'est-à-dire qu'on a « beu ». Qui vient de bellus, donc avec un ou, une diphtongue, disons, auseo, l'oiseau, auicellus, du latin.
Donc les deux L sont devenues une voyelle, c'est comme ça qu'on
voilà,
appelle
c'est ça.
Voilà.
Et c'est le L qui est devenu ou. Et ça, on va le retrouver dans beaucoup d'autres langues. Vous savez que la différence entre le portugais du Portugal et le portugais du Brésil, c'est celle-là aussi. Comment dit-on Brésil en portugais du Portugal? On dit Brasil, avec un L vélaire, mais en portugais du Brésil, on dit Brasil, avec un O. C'est la même chose, c'est la même histoire. Donc, d'une manière générale, le languedocien, comme je l'ai dit, est plus conservateur que le provençal. Par exemple, les consonnes finales se prononcent. On dit amic pour dire l'ami. On dit prat pour dire le pré. L'infinitif garde le R final en langue d'Occitan, mais ne se prononce pas en provençal. Par exemple, on dit escuba pour escuba, balayer, escuta pour écouter, boulega pour bouger. Et la même chose, jou pour jour, dé pour doigt, et pé pour pied.
On enlève les R.
Voilà, on enlève.
Enfin, bon,
voilà.
Les verbes.
Alors maintenant, que se passe-t-il avec le gascon ? Alors le gascon, il faut le mettre tout à fait à part. Parce que son évolution a été tellement différente du fait que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé du basque, on a dit que le basque était parlé très très loin au nord du Pays basque actuel. Eh bien, c'est pour ça que le gascon, langue latine, a été différente du fait de la présence du basque pendant des siècles, a été très différente de ce qu'il en est pour le languedocien voisin. Alors, sur le plan lexical, le gascon partage de nombreuses formes avec le basque. Alors, des mots, bien sûr, qu'on ne connaît pas ailleurs. Avarda, le rhododendron, ker pour le rocher, gabe pour la rivière. Excusez-moi, la prononciation,
on les reconnaît pas du tout,
c'est normal.
Puisqu'ils n'ont aucune relation
avec les langues latines.
Le gascon. Le gascon,
il recouvre
quel air ?
Voilà, alors maintenant, il recouvre un très vaste espace, tout le reste, jusqu'à l'océan Atlantique. Vous voyez, tout le reste par rapport aux langues d'Occitan.
Au basque qui s'est limité d'un basque, côté, le languedocien
de l'autre. Puis au nord, il y a le Limousin. Donc on a une espèce de triangle qui va jusqu'aux environs
Toulouse, en fait.
Exactement. Et à ce niveau, la limite avec le languedocien suit à peu près le cours de l'Ariège, dont il s'éloigne ensuite progressivement vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Atlantique, quoi. Alors maintenant, quelle différence phonologique ? Alors là, il y a aussi une consonne qu'il faut retenir comme caractéristique du gascon, c'est la présence d'un véritable H. On l'a vu déjà dans d'autres cas. En français, le H n'est qu'une difficulté d'orthographe, nous dirons. Hein, il est là,
oui,
mais...
On ne fait pas la liaison dans certains cas. Voilà, ça le problème.
Alors, Tandis que là, il existe. Et c'est sans doute dû au fait qu'il y a un H en basque. Et donc là, c'est resté. Et qu'est-ce qu'on
l'entend,
va trouver ? Bien entendu, par exemple, pour le mot latin « flore », qui est la fleur, eh bien, en gascon, on a « hlor ». Vous avez entendu le H, hein ?
On le prononce. Voilà.
La fille, c'est Hilia. Hilia, et pas filia. Pas un F, mais un H. De même, la farine, c'est Haria. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Haria ? Qu'est-ce qu'on voit là ? Bien, on voit une autre caractéristique, c'est que le N du latin a disparu. On ne dit pas
Farina.
Voilà.
On a enlevé le N.
Voilà, et on a donc la lune, ça nous fait lua, et la gallina, ça devient garia.
Poule,
voilà. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on retrouve en portugais. Mais enfin, évidemment, nous ne sommes pas là pour expliquer.
Limitons-nous à la France.
C'est déjà quelque chose.
Alors, la France sans Henri IV et sa poule au pot, c'est bien connu, voilà. Mais Henri IV parlait-il
Béarnais. Le Béarnais n'est pas très différent du gascon, sinon qu'il y a une différence historique. Et donc, les Béarnais tiennent absolument à montrer leur différence. Et leur différence, elle est très, très faible. Par exemple, pour dire le mot « jour », on dit « dit ». On retrouvait le latin.
Directement du latin, oui.
Dans la langue d'oc, eh bien, on dit « jorn », quelque chose comme « jorn », qui est un petit peu comme en français, « jour ». Voilà. Alors maintenant, on arrête avec les langues d'oc et on va parler d'une langue qui est un petit peu au nord, mais seulement à l'est du nord des langues d'oc, le franco-provençal.
Il faut vraiment, avec vous, avoir la carte géographique de la France dans la tête, ou en tout cas la regarder pour l'avoir sous les yeux. Merci Henriette Walter de cette émission consacrée donc à trois langues d'oc, mais presque quatre, disons, provençal, languedocien, gascon et béarnais. À bientôt pour une autre émission, si on veut en savoir beaucoup sur ces aventures et mésaventures des langues de France, eh bien, on peut se procurer votre ouvrage qui porte ce titre. Cette série d'émissions est établie en partenariat avec la DGLF-LF. Rejoignons maintenant Clément Moutier pour découvrir quelques extraits de chansons en provençal.
C'est en musique maintenant que Canal Académie, en partenariat avec le Hall de la Chanson, vous propose de découvrir la langue provençale. L'extrait proposé est chanté par l'une des voix les plus connues de Provence, Jean-Marie Carlotti. Il vous fait découvrir ici une reprise d'une chanson du répertoire traditionnel provençal, Galante de ta Mistressa.
Ma coma mia per mangiare, ma coma mia per mangiare.
Canal Académie vous invite à consulter les autres langues régionales évoquées par Henriette Walter, professeure de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Dans la prochaine émission, elle vous emmènera à la découverte d'une langue à la dénomination un peu trompeuse, le franco-provençal. Rien à voir avec un mélange de français et de provençal, vous découvrirez que cette langue régionale est riche de ses nombreuses spécificités. Canal Académie vous invite également à découvrir en chanson les langues régionales de France sur le site du Hall de la Chanson www.lehall.com.